I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc je me lève, donc j'ouvre le rideau. J'étais sur un bateau.
Oh.
Dans la baie d'Along.
Ah oui.
Oh.
Donc là, je me tourne vers mon ex.
Et c'était pas prévu?
Ah mais non.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximuska et Marie Debreuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-morts à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invité du jour, Charlie Danger, raconte sur YouTube des histoires d'aventure. Dans la vraie vie, elle enchaîne de grandes aventures. D'ailleurs, elle vient de cocher l'Égypte dans sa bucket list. Tout le monde se demande où est Charlie. Eh bien, ce soir, elle est au Grand Contrôle, car on enregistre cet épisode en public. Mais avant que Charlie nous parle des pyramides et qu'on lui demande ce qu'il lui reste à cocher sur sa bucket list, je dis bonsoir à Marie et je dis bonsoir au public.
Bonsoir, oui.
Ah, presque du premier coup, ça va Marie ?
Ça va très bien.
Tu trouves pas qu'on fait un peu yo-yo là dans les lieux d'enregistrement depuis quelques temps là ?
Si, il y a un petit, quelque chose.
Ouais, on était d'abord dans mon grand appart, j'étais en coloc, j'avais une énorme table. Après, on est passé dans un plus petite table et là, bon bah, c'est encore nouveau.
Voilà, mais... c'est sur scène. Moi, ça me va, si on les fait à chaque fois ici.
Écoute,
on négociera ça.
Est-ce que tu es prête à voyager ? Donc, tu es prête à voyager.
Mais évidemment. Est-ce que le public est prêt à voyager ?
C'est parfait. Et bonjour Charlie. Bonjour Charlie Danger.
Bonjour, ça tombe bien parce qu'on va vous offrir des places pour l'Égypte à la fin.
Oh, doucement, c'est la prod qui gère, moi ça me va.
C'est hein. Grand Contrôle qui régale.
Alors Charlie, est-ce que tu es prête à nous faire voyager ?
Oui.
Oui, tu es prête à nous faire voyager ? T'es déjà en train de voyager parce que t'es pas de Paris, toi.
Ton pantalon me donne très envie de voyager.
En fait, j'enregistre comme ça quand on est à la maison, donc je me suis dit, je vais me mettre en détente.
Pour les touristos et touristas qui nous écoutent, il a un t-shirt Phuket Pub Crawl et un super pantalon éléphant.
Ah oui, c'est ça. Mais et surtout l'histoire
de cet outfit,
c'est que c'est le jour où on s'est rencontrés, Marie.
Oui. C'était sûr.
Sûr,
ouais,
et certain.
C'est vrai.
J'ai la photo où on était
à Phuket,
un peu bourracho. Donc Charlie, premier exercice dans Tourista. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on retrouve un peu l'ambiance auberge de jeunesse, tu sais, à l'heure de l'apéro. Donc je voudrais que tu te présentes en anglais, comme si tu étais avec plein d'inconnus qui ne connaissent pas. Comment tu te présentes en anglais en voyage Est-ce que tu parles anglais ? Est-ce que tu parles anglais ? Non ?
Oui, mais du coup, là, je suis gênée.
Quoi ?
Attends, parce qu'ils sont français, ils parlent français, on est d'accord.
Oui,
bien
oui.
Sûr, mais tu sais... Alors, ok, là je t'ai piégé, j'aurais dû te prévenir, mais en fait c'est juste, tu sais, quand t'es en auberge de jeunesse, tu rencontres plein de gens qui sont pas...
J'ai jamais été en auberge de jeunesse, du coup j'ai pas cette...
Bon, t'as déjà rencontré des étrangers, tu communiques comment avec les étrangers ? Bon, bah tu veux te présenter en français peut-être ?
Non,
bah
oui, comme tu veux, en anglais c'est bien aussi, mais...
C'est juste pour checker un peu ton niveau d'anglais, quoi, c'est tout, quand t'es en voyage, tu parles un peu anglais.
J'ai l'impression de passer un oral, sauf que moi, c'est fini le bac, c'est fini les études, moi j'avais passé ça, je les ai dit, ça y est, c'est terminé, c'est derrière moi, et la Maxime Muscat arrive dans ma vie, pourquoi tant de haine ?
La dernière personne qui a été stressée comme ça, c'était Cyprien, je me souviens ? Ouais. Cyprien était pareil, mais je comprends, hein, moi.
Mais tu m'étonnes que personne ne veut faire ton émission là.
Non, mais c'est pour ça. Tu seras peut-être la dernière. Bon, bah écoute, tu vas peut-être pouvoir nous parler de ton rapport au voyage plus tranquillement en français. Pour qu'est-ce que ça représente dans ta vie le voyage
Alors, beaucoup de bio Tinder claqué au sol.
Ok.
Non. Plus sérieusement, c'est à la fois une partie de mon travail, puis c'est aussi. Chouette de voyager et de niquer son bilan carbone pour un plaisir perso.
Bravo, bravo. Et alors, tu reviens d'Égypte, là ?
Ouais, totalement.
On va en parler tout à l'heure, mais j'ai plein de questions à te poser à ce sujet. Mais avant ça, il y a le quiz de Marie que je ne connais pas.
On me fout direct dans la sauce.
Bah oui, et en plus, tu as préparé un petit papier apparemment aujourd'hui.
Ouais, d'habitude, c'est sur mon portable. Je suis en screenshot. Là, je me suis dit, attendez, c'est un peu classe. J'imprime mon quiz. C'est un quiz spécial Égypte antique.
C'est vrai ?
Je me suis foulée. Égypte tout court d'ailleurs, pas que antique.
Ok, bah génial, bah putain.
Attention.
Grosse double pression là.
Double pression, je pense que Charlie, peut-être ça va aller, je sais pas. Première question. En Égypte antique, les chats... Oui, c'est ça. Les chats étaient adorés, même vénérés. Et quand un chat mourait dans une maison, les habitants devaient faire quelque chose sur leur corps pour montrer leur deuil. Qu'est-ce qu'ils devaient faire, à votre avis ? Un truc qui se voit.
Un truc qui se boit ?
Qui se voit, pardon.
Ah, qui se voit. C'était quoi ? Ils devaient se tatouer, mettre de la peinture,
ça ? T'es dans de la bonne vibe, c'est pas ça. C'est plus quelque chose qu'on enlève.
Oh, il devait se mettre tout nu pendant 3 semaines.
Mon chat est mort, je suis désolée.
C'était la bonne excuse, en fait, parce qu'ils étaient également bourrats de chaud.
T'as une idée, Maxime ?
J'ai pas entendu la question, en fait, du coup.
Ah bon ?
Ouais, non, c'est pour ça, je pensais que t'allais répondre direct et que j'aurais pu passer inaperçu dans mon manque d'attention, mais je suis désolée. Tu peux la refaire, s'il te plaît ?
Bien sûr, en Égypte antique, on adorait les chats, et quand dans un foyer un chat mourait, les habitants devaient faire quelque chose sur leur corps. À ton avis, quoi ?
Bah, on se rasait.
Se raser quoi ?
Le pubis ? Non, pardon. Vous savez, dans le public ?
Tout de
les
suite.
Cheveux ?
Se raser.
Les cheveux, les
pas
cheveux.
Les cheveux, plus petits.
La barbe ?
Les sourcils, je vous
les
le dis.
Les sourcils.
Ils devaient se raser les sourcils. Voilà. Première question.
Excellent. On a tous appris semaine. Quelque chose, là, j'ai l'impression. Hein.
C'est un peu point Maxime, ce que tu as dit raser.
Ouais, un point. On met le point. Allons-y.
Ça marche. Si vous allez au Caire voir les pyramides de Gizeh, vous pouvez vous poser à plein d'endroits pour profiter de la vue, mais il y a un lieu un peu insolite pour pouvoir admirer ces pyramides, plus exactement un restaurant. Nice. Lequel ?
Bah là, tu devrais...
Il y en a plusieurs, mais il y a vraiment un resto qui a la vue sur les pyramides, quoi.
Mais c'est pas celui qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, là, qui est littéralement à 20 mètres des pyramides ?
Alors, je ne sais pas s'il est aussi près, mais c'est une...
C'est le Qatar qui est en train de construire plein de trucs autour et tout, et qui sont encore achetés plein de... Enfin, ils veulent faire un bordel autour des pyramides. D'ailleurs, si vous voulez aller en Égypte, profitez-en pour aller voir les pyramides soon, parce que très bientôt, ce sera très moche.
Bah, effectivement, c'est un peu spécial. C'est une chaîne de resto connue.
Une chaîne de resto connue. McDo ?
McDo ?
Alors, c'est pas McDo.
Eh bah, ben, Burger King.
Non plus.
Eh bah, ben, Starbucks.
Non plus.
Eh ben, vous avez, vous, dans le public, encore ? On n'est pas doués.
Attends, j'ai entendu, je crois.
Pizza Hut,
c'est ça.
Ah, c'est vrai.
C'est
donc ils ont le meilleur spot pour voir.
Bah, je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas ils ont vraiment une terrasse avec vue et donc tu peux même faire une photo avec le logo de Pizza Hut et derrière les pyramides.
Toi, t'es et encore la pizza, évidemment. Chercher tes petites questions dans des endroits bien particuliers. Hein.
Ma petite question façon Julien Lepers.
Oui.
Je suis une salle de cinéma à Paris. Je suis aussi un lieu que Philippe Catherine adore et je suis une ville égyptienne.
Luxor ?
Oui, Luxor. Elle était facile.
Elle était en train de boire. Elle a failli répondre, mais... Elle était... Donc 2-0, là, c'est ça ?
2-0 et un point public. Le public
et un point public, rattraper. C'est vrai.
Bon, il y avait plein de trucs qu'on a entendus sur les modes de vie en Égypte antique, sur la sexualité, notamment sur les contraceptions, les moyens de contraception. Et il y a une contraception féminine qui avait une composition particulière pour faire une sorte de pâte que les femmes s'inséraient dans le vagin au plus profond d'elles-mêmes. Et lequel de ces ingrédients n'était pas dans la recette de la pâte ? Je vous les cite. Du miel, de la gomme arabique, du caca de crocodile, du pipi de serpent ou des épines d'acacia.
100% le caca, il y était.
J'ai aucune idée. Le serpent ?
Elle n'a pas donné sa réponse.
J'aurais dit les épines d'acacia.
Les épines, le pipi ? Et bah, c'est effectivement le pipi. Il n'y a pas de pipi de serpent. Déjà parce que les serpents ne font pas vraiment pipi. C'est comme les pigeons.
Ah bon ?
Ça me faisait juste rire de dire pipi. Voilà. Pipi, caca, super. Et si les épines d'acacia, en fait, avaient des vertus spermicides. Et c'est pour ça que parfois, elles étaient rajoutées à la composition.
Ce soir, vous savez quoi faire.
Vous mettez des
petites
épines.
On distribue des épines d'acacia à la sortie de ce podcast. C'est faux.
Ok, dernière question. Est-ce que Maxime, tu vas remporter finalement ?
Je vais écouter cette fois-ci. Je suis là.
Le Nil et sa crue estivale étaient et sont toujours importants pour l'agriculture, mais. À l'ancienne, dans leurs croyances, les hommes faisaient quelque chose dans le Nil pour vraiment faire en sorte qu'il ne s'assèche jamais. C'était vraiment une croyance. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les hommes, pas les femmes, dans le Nil ?
C'est encore un truc à base.
Là, je suis en pipi, caca, poudre, ouais, machin et ouais. Tout, donc vous pouvez y aller.
En vrai, ils faisaient beaucoup de choses dans le Nil.
Ah ouais, alors.
Vraiment beaucoup de choses.
Ouais, mais un truc pour faire en sorte que. C'est un truc de croyance, quoi. C'est pas juste, ils prenaient à boire.
Ils faisaient... Vous avez une idée dans le public ? Non.
On Julien dit bibi, non, je me suis renouvelée, c'est plus... Et oui, c'est ça,
ah,
pour le public.
Ah, tu donnes ta semence.
Tout à fait, il se masturbait dans le Nil pour rendre la région fertile.
Eh ben, 2 points pour le public, bravo.
Bravo.
Bravo, Julien Méniel. Je t'ai entendu. Eh ben... t'as tapé quoi du coup? Égypte et quoi d'autre?
Moi,
c'est quoi tes mots-clés?
Je suis curieuse de savoir comment t'es tombée là-dessus. Ouais, tu vois.
Alors j'ai vraiment été sur des sites où c'est marqué insolite, machin. Enfin, j'ai fait mes recherches. Ça se trouve, je dis des conneries, hein, c'est pas impossible. C'est un quiz, c'est pas un docu Arte.
C'est fini?
Oui, c'est fini.
Et ben, merci pour ce quiz et pour ces belles infos, Marie.
Mais de rien.
Donc on va évidemment continuer. J'aimerais beaucoup que tu nous racontes ton voyage, parce qu'apparemment tu as fait un méga voyage en Égypte. On en a beaucoup parlé déjà, mais j'aimerais en savoir plus. Mais avant, je voudrais un peu savoir si, parce que tu aimes les histoires d'aventure, mm-hmm. tu aimes les raconter.
J'ai pas éjaculé dans l'île. Si c'était ta question.
On verra ça après. L'Égypte, c'est après. D'abord, c'est en général. T'es quel genre de voyageuse? Est-ce que tu es aventurière? Est-ce que tu es plutôt valise à roulette ou plutôt backpack? C'est quoi le voyage pour toi?
Bah, majoritairement, si je prends les expériences que j'ai eues, j'ai fait plus de voyages style sac à dos, un peu route, etc. Mais du coup, ce voyage-là en particulier, le voyage en Égypte, c'était très, 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 très loin d'être un voyage de sac à dos. Puisque c'était un truc même plutôt de luxe, mais on va y revenir, parce que je ne voulais pas forcément faire ça, mais j'étais un peu obligée par rapport à l'expérience que je voulais vivre, où c'était racheté par... une agence de voyage qui propose que des trucs un peu comme ça. Donc, si je voulais faire cette expérience-là en particulier, j'étais un peu obligée. Bon, j'avoue, je me suis pas plaint non plus. Écoutez,
supportable quand il y a une piscine dans l'hôtel.
T'as laissé les stories, je suis un peu allé voir, ça avait l'air vraiment ouf. Mais déjà, peut-être on peut en parler parce que donc tu t'en reviens là, il y a pas longtemps, t'en as déjà un peu parlé sur Twitch dans une émission. Et j'ai un ami qui s'appelle Valentin qui m'a dit, waouh, elle en a un peu parlé, mais j'ai trop envie qu'elle m'en dise plus. Tu ne trouveras pas un voyage qui a plus de sens que le voyage qu'elle a fait.
Oui, alors en fait, l'origine story, j'ai l'impression de raconter ma background story de super méchante. Quand j'étais petite, j'étais passionnée forcément d'archéologie et d'égyptologie et tout ça. Et avec ma sœur, on était très, 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 très fans de jouer. On passait notre vie à jouer aux aventurières et tout ça. Et moi, je lisais énormément d'Agatha Christie. Je ne sais pas si vous connaissez Hercule Poirot un petit peu ou pas dans le public. Les vrais hurlés. Merci, je vous aime. Et donc, j'étais très fan d'Hercule Poirot. Et il y a un des romans qui est super connu d'Hercule Poirot qui s'appelle Mort sur le Nil. Et toute l'action, toute la scène se déroule à bord d'un bateau. Dans le livre, il s'appelle Le Carnac. Mais Agatha Christie, quand elle a écrit ce livre-là, elle était réellement en Égypte. D'abord à Assouan, dans un hôtel qui s'appelle le Hall Cataract. Et après, elle a fait une croisière à bord d'un bateau qui s'appelle le SS Soudan. Et c'est ce bateau qui lui a permis d'imaginer la scène et les actions de Mort sur le Nil. Et c'est un bateau mythique, puisque c'est un bateau qui a plus de 100 ans. Je crois qu'il a été mis en service en 1890, quelque chose comme ça. Et c'est le dernier bateau à vapeur qui fonctionne encore sur le Nil. Donc aujourd'hui, il y a plein de bateaux de croisière, mais un bateau de croisière à vapeur, c'est le seul sur le Nil. Ils ont conservé cette ambiance, il est vraiment dans son jus, en mode années 30, années 20, etc. Et c'est une pépite. Et quand j'étais petite, j'avais un peu une obsession autistique sur le SS Soudan. J'étais complètement fan du SS Soudan. Je collectionnais les plans d'architectes du SS Soudan. Ah ouais. Et j'avais une photo du SS Soudan accrochée au-dessus de mon lit. Donc, ah ouais. Autant te dire que dans ma bucket list de voyages, c'était plutôt haut.
C'est vrai que moi, c'était Poudlard, quoi, dans Harry Potter. Donc,
bah
forcément,
ouais,
en termes d'accessibilité,
tu
peux pas visiter.
Alors que ça existe. Ça, tu peux.
Et du coup, t'as montré des photos, justement, de quand t'étais petite aux gens du SS Soudan.
Ouais. Du coup, en fait, donc c'est ça que j'ai fait, hein, spoiler. Et c'était tellement... c'était fou parce que j'ai eu vraiment la sensation pour la première fois de réaliser un rêve.
Okay.
Tu sais, tu t'es projeté tellement de fois dans cette situation à imaginer qu'est-ce que tu ressentirais quand tu le verrais de tes propres yeux ou ce genre de choses. En vrai, c'est un bateau. Genre, je l'ai passé pour une folle, on s'en bat les couilles. Mais moi, c'était mon truc d'enfant, quoi. Et quand ça arrivait en vrai, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps.
J'ai vu les stories, c'était trop mignon.
Et t'as eu des cadeaux? Je ne sais pas si c'était des blagues, parce qu'on t'a offert une photo.
Attends, bah, spoil pas.
Ah, pardon, je spoil pas.
Tu veux que je raconte ça, du coup
Je veux que tu racontes tout ce que tu veux, ouais.
Ok, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis partie avec ma sœur pour que ça fasse le voyage de notre rêve de quand on était petite. Et on a fait vraiment un voyage sur les traces d'Agatha Christie. Donc on a commencé par Aswan avec le Hall Cataract. C'est pour ça que je disais que c'était un peu un voyage, on va pas se mentir, de droite. C'est bon, clairement, voilà. Donc on a fait le Hall Cataract et c'était incroyable parce que tout le monde au Hall Cataract tirait la gueule, ils avaient l'air de s'en battre les couilles dans un hôtel magnifique et tout. C'est et en particulier routine, les rares Français qu'il y avait, ils venaient de Normandie, si je dis pas de bêtises, étaient particulièrement exécrables avec le personnel, ils étaient juste dégueulasses. Et ils leur parlaient super mal, ils faisaient même des remarques racistes en français à table, alors que nous on était juste à côté, mais ils savaient pas à ce moment-là qu'on parlait français. Et donc nous on voyait tout ça, et à côté, avec ma sœur, on était juste mais comme deux folles. Déjà on était en Égypte, on est en train de réaliser les rêves de notre vie. Et donc on parlait avec tout le monde, on a parlé avec tous les employés qu'on rencontrait, ils nous ont montré les jardins, et on a sympathisé un peu avec tout le monde, etc. Et à un moment donné, il y a une des responsables qui s'appelle Yara, qui vient nous voir et qui nous dit « Bon, vous êtes vraiment trop mimi, ça sent que vous êtes vraiment passionné par ce lieu et tout. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse une visite privée de la chambre d'Agatha Christie au Hall Cataract Hotel, qui était fermée depuis plusieurs mois parce qu'elle est en rénovation ?» Donc normalement, le truc, tu ne peux pas le visiter.
Ah, il propose pas ça à tous les,
exactement,
tous les clients.
Et donc là, nous, on était refaites. J'ai fait « Oui, Seigneur, oui, Yara, épouse-moi. » Elle a dit non. Et ensuite, du coup, elle nous a montré la chambre, donc on était trop contentes et tout. Et elle avait laissé la porte ouverte. Et 5 minutes passent, on était en train de faire des photos, machin, machin. Et les Français en question, qui étaient à table le matin et qui étaient exécrables avec tout le monde, ils rentrent sans frapper ni rien. Ça pouvait être notre chambre, ils n'en savaient rien. Non, ils rentrent juste. Ils disaient « Ah, donc oui, c'est ça, la chambre d'Agatha Christie. Ah, c'est dingue !» Et Yara, elle les regarde en mode « Vous avez été invité par quelqu'un pour venir ici ?» C'est elle « Non, non, mais on a vu que la porte était ouverte, donc on se dit qu'on allait regarder, qu'on allait visiter. »
C'est incruste.
Voilà, et moi, j'étais à ce moment-là sur le balcon. Ils m'ont dégagé. Ils m'ont poussé sur le côté en disant « Poussez-vous, etc. » machin. Trop méchant. Et on s'est regardé. Et Yara, elle était trop complice avec nous, donc forcément, ça a un peu aussi rapproché, etc. Et bref, à la fin de... Donc on a passé comme ça quelques jours et c'était trop bien et on a sympathisé avec tout le monde. Et à la fin, Yara nous a fait venir en bas avec le directeur du Hall Cataract en nous disant « On a quelque chose pour vous, on a une surprise ». Et en fait, le directeur nous a reçus en nous disant que ça faisait très 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 longtemps qu'ils n'avaient pas rencontré des gens aussi passionnés par l'histoire de l'hôtel et qu'ils soient aussi gentils, etc. avec tout le monde. Qui voulaient nous remercier pour notre présence et que c'était ce genre de petit moment qui leur redonnait la foi dans leur travail, etc. Et il nous a offert la clé historique de notre chambre dans laquelle on était, la clé historique du Hall Cataract Hotel. Il n'y en a que quelques-unes parce que c'est les clés de 1900, etc., qui valent une blinde.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment un cadeau, quoi.
Ouais, non, et dans l'écrin avec le certificat.
Elle est magnifique, j'ai vu la photo, ouais.
Comment dire, pour dire que c'est une vraie clé, véridique, etc., machin et tout. Et il nous l'a offert de façon hyper solennelle en nous disant quand vous revenez en Égypte, vous aurez toujours une chambre au Hall Cataract et tout. Et nous, t'es là.
Ah ouais.
Ok.
Vous êtes mis très bien, quoi.
Ouais, ouais. Et après, du coup, il y a eu rebelote à bord du SS Soudan.
Oui, c'est ça, parce que en fait, ça a continué et je ne savais pas si c'était vrai, parce qu'ensuite, tu as sympathisé avec le commandant du bateau.
Exactement, pas avec le commandant, avec le directeur du bateau. En fait, déjà, à la base, il m'a vu. Avant même qu'on soit monté sur le bateau, j'étais en larmes, je chialais toutes les larmes de mon corps parce que je le voyais en vrai. Et tout le monde était en mode « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on vous a volé un truc ?» Enfin, ils étaient hyper stressés, quoi. Moi, j'étais là juste « Non, je suis heureuse !» Et donc, du coup, je pense qu'on a dû vraiment passer pour deux folles. Ils nous ont fait une visite privée du bateau en se disant « On va leur faire plaisir », sauf que je connaissais déjà toutes les salles parce que j'avais étudié les plans depuis que j'étais gamine. J'étais là « Tu vois, Marion, ça, c'est la salle de machine. » Ils me regardent en mode « Quoi ?»
Elle pensait que tu travaillais ici, quasiment.
Oui, c'est ça. Et du coup, à la fin, bah, il nous a fait un pitch comme ça. Mais alors, là, c'est un peu spécial parce que Amer, du coup, le directeur du SS Soudan, il y a mis beaucoup de spiritualité. Il a ses croyances, etc. Et il nous a dit que lui, dans ses croyances, le SS Soudan, elle avait une âme, que pour lui, c'était une fille. Enfin bref, il nous a expliqué tous ces trucs, etc. Et il nous a dit, vous voyez, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais moi, je savais que vous alliez venir. Vous avez votre vie antérieure est rattachée à ce bateau. On vous a attendu, on savait que vous viendriez cette semaine, etc. Machin. Donc là, on le regardait un peu en mode, ah bon ? Ouais, ok. Et là, il nous a offert donc, la fameuse photo du SS Soudan qui date de 1900 et des bananes, un truc pareil, hyper historique et tout, du photographe officiel du SS Soudan. Et donc, on était hyper touchés, machin, on pleure. On remonte dans notre chambre sur le quai et il toque à la porte. Et il fait oui, est-ce que je peux rentrer? Là, on était un peu en mode quoi, qu'est-ce qui se passe? Il fait non, mais vraiment, je veux rentrer. Et j'étais là, ouf, ça c'est le moment où on se fait violer. Et en fait, il est rentré et il nous a dit, quand je vous ai dit qu'on vous attendait, c'est vraiment qu'on vous attendait, j'ai un cadeau pour vous. Et il nous a remis deux pendentifs, deux pierres. La première, c'est une pierre d'onyx pour ma sœur, et la deuxième, c'est une pierre de jade. Et il a dit, c'est pour vous. Et en fait, le truc est assez ouf, encore une fois, on y croit, on n'y croit pas, mais le truc est assez dingue, c'est que l'onyx, c'est la pierre préférée de ma sœur, et que la jade, c'est ma pierre préférée, et j'en ai une autour du cou depuis que j'ai 10 ans, quoi. Vous me verrez dans toutes les vidéos depuis ever, j'ai toujours ce truc-là autour du cou. Il nous a offert précisément ces trucs-là, et puis il ne pouvait pas les avoir inventés, ça faisait une semaine qu'on était sur le bateau, et puis ça faisait une heure qu'on avait parlé, donc c'était pas...
Ah ouais, je veux ces mêmes croyances. Hein, si est... Non, c'est quoi ces croyances?
L'avenir ou pas, ce mec? Il a un hume, on peut lire son avenir.
Non, mais oui, du coup, il était, lui, dans ses croyances, il était persuadé qu'on avait déjà eu un truc avec le bateau, que c'était des connexions, je sais pas quoi.
Et ça se passe toujours comme ça quand tu voyages?
Non,
t'as souvent des cadeaux partout et tout. T'as été surclassée aussi, j'ai vu. J'ai vu juste ce voyage-là. Je dis, mais attends, mais c'est quoi cette voyageuse-là? Il lui arrive que des trucs de ouf. C'est pour ça que je croyais que c'était une blague. Quand tu parlais de votre âme était déjà sur le bateau et tout, je croyais que tu faisais des blagues tellement c'était fou d'avoir autant de trucs. Autant de cadeaux, t'as déjà eu des cadeaux toi? On t'a déjà offert des trucs?
Frère, j'ai des t-shirts pub crawl comme toi. Vous avez bu beaucoup de bière sur tous ces bars. Tenez un t-shirt. Merci. Yes.
Non mais moi je me souviens, dans le Transsibérien, j'avais rencontré un jeune russe qui revenait de, enfin qui était dans l'armée russe, et il m'avait offert son t-shirt de Russie. J'étais trop content. Bon, moi je lui ai filé
c'est
en échange.
Poil, tiens.
Mais en échange, je lui ai filé mon maillot de l'équipe de France. Du coup.
J'étais un peu deg
parce qu'il y avait la Coupe du Monde. En fait, j'y allais pour voir la Coupe du Monde en Russie. Du coup, j'avais plus mon t-shirt, mais j'étais obligé de lui offrir un truc. Il y avait ça et tout. Mais on vous a déjà offert des cadeaux fous, vous, en voyage? Non, rien.
Un petit cadeau, non?
Rien de dingue.
Ouais, vous êtes dans ma team, hein. Team Goodies.
T'étais déjà allé en Égypte ou c'était la première fois?
Non, c'était la première fois.
Ah oui, donc t'avais tout découvert parce qu'après, t'allais voir les temples, les.
Oui, c'est ça.
C'est...
Parce que du coup, à bord du SS Soudan, on ne fait pas que juste voyager sur un bateau. En fait, on s'arrête, il y a des escales et on fait tous les temples et tous les sites importants, Edfou, Karnak, tous les trucs comme ça.
C'était comme t'imaginais ou alors t'as changé de vision sur l'Égypte et tout ça?
J'étais un peu stressée avant d'aller en Égypte parce que forcément, comme tout le monde, je pense, on a une image un peu préconçue. Je ne sais pas si vous avez une destination comme ça où vous avez un peu peur d'y aller. Par peur d'être déçu une fois sur place parce qu'il y a trop de touristes ou parce qu'il y a trop de monde ou parce que ça a été mal conservé ou j'en sais rien. Moi, j'avais un peu ce truc-là avec l'Égypte. Et en fait, j'ai eu la chance, entre guillemets, à remettre dans le contexte, mais j'ai eu la chance d'y aller en période de Covid et en été. Et déjà, personne n'y va l'été parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais alors, en plus, avec le Covid, ça fait que c'était très, 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 très vide. Des temples où, normalement, il nous disait, le guide, il y a environ 15 000 visiteurs par jour en moyenne. Il n'y avait que 40 personnes.
Ah ouais.
Donc
ah,
wow. Là, ça donnait vraiment cette espèce de sentiment d'exclusivité, de t'arrives et tu presque t'es seul au monde, quoi. Tu peux prendre le temps de tout regarder, de tout voir. Et c'était fou. C'était vraiment une expérience dingue parce que ça donnait ce sentiment d'intimité avec le lieu que t'as pas forcément quand t'arrives sur des sites hyper peuplés, etc. Donc en ça, oui, je trouve que c'était assez... fidèle à l'image qu'on peut se faire d'une carte postale égyptienne. Cependant, ça remet quand même dans le contexte. Il ne faut pas oublier que l'Égypte, ce n'est pas que ça. Et même si c'est un peu l'idée préconçue qu'on a, il y a aussi beaucoup de choses, d'autres paysages qui sont un peu moins mis sur les cartes postales, mais qui sont intéressants aussi quand on discute avec les populations locales de voir pour le contexte, quoi. Parce qu'il ne faut pas y aller en Égypte en se disant « ça va être merveilleux, ça va être que des déserts à perte de vue, rien que les pyramides ». On a souvent cette idée de les pyramides perdues dans le désert avec le Sahara, pas le Sahara mais vous m'avez compris, à perte de vue. Et en fait non, t'as littéralement la ville qui est à 30 mètres des pyramides quand tu regardes du mauvais côté, quoi. Donc tes photos tu les fais que d'un côté, pas de l'autre.
D'accord, c'est pas genre que du désert, du sable et tout.
Ouais non, pas du tout. T'as vraiment le Caire qui grignote petit à petit en direction des pyramides.
Je pense si j'y vais, clairement je vais la faire la photo côté Pizza Hut en faisant. Ouais. Il est là. Je vais y aller, je vais manger la part de pizza.
Il y avait ma guide d'ailleurs sur au Caire. Je ne sais pas si vous avez prévu d'aller en Égypte un jour. À main levée, qui voudrait aller en Égypte, juste par curiosité. Ok, trop cool.
Beaucoup de monde.
Alors,
beaucoup de monde.
Si vous voulez y aller, allez-y dans les deux prochaines années, si vous voulez un petit conseil. Parce que ma guide, quand on était à Gizeh, donc sur les, les pyramides de Gizeh. Elle nous expliquait que d'ici 2 ans, donc ça avait été racheté par le Qatar, une partie de la zone, et d'ici 2 ans, en fait, on ne pourra plus aller directement à pied devant les pyramides. Ça va être interdit. Ils vont juste faire un petit train, et il faudra monter à bord du train, et on ne pourra plus s'approcher des pyramides, il faudra juste faire le tour.
Venez, on y va ensemble. Tous les gens qui ont levé la main.
Et alors, d'un côté, c'est bien pour la préservation du patrimoine. De l'autre, ça casse un peu l'expérience de quand on a envie de s'imaginer avec les pyramides et tout ça. Et également, il y a un truc qui l'embêtait beaucoup, elle, c'est que les guides, c'est un peu leur gagne-pain. Et le truc, c'est que ce qu'ils veulent faire, c'est privatiser le petit train. Les guides ne pourront pas monter à bord du petit train. Et ce sera juste une voix en anglais qui va donner les explications. Mais il n'y aura plus ce côté un peu intimiste de tu vas explorer les pyramides et tout ça. Et puis, il y aura des buildings partout autour avec des Pizza Hut et des McDo et des trucs comme ça de tous les côtés. Donc...
Puis t'auras plus le truc de « Ah, j'ai eu le mauvais guide ».
Ouais.
Parce que parfois, on fait des visites et t'as le bon guide, t'as le mauvais guide, quoi.
Ouais. J'avoue, tu ça au Cambodge, dans les temples d'Angkor. Je voulais continuer sur... Parce que je suis un peu allé voir sur Instagram. J'ai vu que tu aimes le sable, la chaleur, mais tu aimes aussi la glace et le froid.
Oui.
C'est quoi ces photos en Islande? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, j'ai pas vu ce que tu faisais. T'étais pour National Geographic, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ça avait l'air incroyable. Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas?
Ils m'ont payé. Non, c'est National Geographic qui faisait une expédition polaire pour aller faire des relevés dans les glaciers pour étudier le réchauffement climatique. Et nous, on est partis avec un explorateur National Geographic qui s'appelle Vincent Colliard.
Ouais.
Et le but, c'était d'aller dans les glaciers et de faire une vidéo avec eux. Et donc, on est partis comme ça pendant une semaine et c'était trop chouette.
Tu dormais où? Ça se passait comment? C'était routes ou
De quoi?
C'était ouais.
C'était pas si routes que ça. Je pense qu'il y a il y en a qui ont fait plus routes où ils sont partis en tente sur le glacier pendant une nuit et tout ça et ça devait être un peu plus intéressant. On était à l'hôtel quand même, mais c'était hyper intéressant. Enfin, c'était fascinant de faire l'Islande de cette façon-là, avec en plus Vincent Colliard qui s'y connaît énormément. Lui, il a fait, si je dis pas de bêtises, il faisait des traversées dans les pôles avec un bateau, etc. C'était passionnant d'avoir ses explications sur la survie en conditions polaires, tout ça, c'était hyper intéressant. Et du coup, ça a fait une vidéo qui est sortie sur ma chaîne il y a quelques années de ça.
Donc ça, c'était plutôt pour le travail.
Voilà.
Avoir un expert sur soi pour voyager, c'est pas mal aussi.
C'est toujours pratique.
Si vous allez à Phuket, pensez à WAM. Je serai expert de tous les bars.
Et donne des t-shirts goodies.
Des porte-clés. Bah,
Enchaîne. Non, je disais du coup, alors quand on a déjà reçu des férus d'histoire dans Tourista, et on se demandait si, contrairement à nous deux, toi, c'était tu choisissais tes destinations en fonction des trucs un peu culturels, les musées, tout ça, dans tes autres voyages, est-ce que c'est important, ou alors toi, tu coupes complètement parce que Manon Bril, par exemple, elle dit moi, je m'en fous d'aller au musée quand je suis en vacances, c'est pas du tout ça, quoi. C'est je vais me dorer la pilule et tout, quoi.
Enfin,
je crois qu'elle avait dit ça, il me semble. Elle avait dit ça. Hein.
Avec
ça,
plus de nuances, mais...
Elle avait dit un truc comme ça, en tout cas.
Ok, bah, ça ressemble à ce qu'elle pourrait dire. Mais je pense que je la rejoins un peu. À savoir, oui, forcément, quand il y a des lieux culturels, bien évidemment, genre, tu ne vas pas aller en Égypte juste pour bronzer. Tu vois, dans ce cas, tu vas ailleurs. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne juge personne, d'accord. Du coup, c'est vrai que, oui, quand tu vas dans des sites d'intérêt... ça donne envie de les faire. Ouais. Maintenant, c'est pas un critère. C'est-à-dire que je vais pas me dire « Ah, non, les Maldives, non, il n'y a pas de temple. » voilà, donc... non, c'est pas un critère de sélection. Par contre, c'est clairement un truc que j'aime faire et qui me... Je suis hyper curieuse, en fait. Donc, dès qu'il y a des trucs à faire, je dis oui. Je suis chaude pour apprendre des trucs et pour découvrir des trucs.
Et si tu avais, dans les conseils de voyage, ta destination préférée, ce serait laquelle? Si tu...
Dans ceux que j'ai fait ou dans celles que j'aimerais faire?
Alors, pour l'instant, celles que tu as déjà fait, des voyages que tu as fait. Donc, l'Égypte, ça y est, c'est.
Oui, mais d'un côté, j'ai vécu un truc presque spirituel.
Ouais, c'est vrai.
Donc, non, c'était le rêve de ma vie. Et puis, en plus, je l'ai fait avec ma sœur, avec qui on jouait à ça. Pendant toute notre enfance, on a joué à ça. Donc, le fait d'y être avec elle, c'était incroyable. On passait notre temps à faire les mortes à bord du SS Soudan en mode un crime a été commis ce soir. Tous les passagers vont se souvenir de nous, hein, je peux vous le dire. Parce que, oui, du coup, dans Agatha Christie, le but, c'est que quelqu'un bute quelqu'un à bord du bateau, et comme ils sont enfermés sur le bateau, c'est genre, ouh, qui est le coupable?
C'est un cluedo, quoi. Bon.
Voilà, c'est un cluedo. Et sauf que bah, du coup, on a dû vraiment faire peur aux passagers, parce qu'à chaque fois, on était là, un crime va être commis ce soir. C'était une blague.
Du coup, je comprends mieux les stories. Du coup, parce que tu voulais qu'il y ait des crimes, je comprenais pas.
Oui.
Et tout,
voilà.
Tu voulais
évidemment
voir des momies aussi.
Moi,
à des moments.
Moi, j'étais trop chaude, mais je m'étais dit, peut-être pas un crime, parce que ça fait chier quand même, mais un vol. Un vol, ça aurait été sympa. Il y avait
mais t'aurais pu être la voleuse.
Non, j'ai hésité. À un moment donné, je me suis dit, putain, Charlie, un petit peu de poison,
le
là, quand même.
Le petit iPhone,
bon
là. Hop là.
Tu rigoles, mais à un moment donné, juste pour me faire plaisir, il y a le directeur qui nous a tous réunis dans le salon en disant, un crime a été commis.
Voilà.
J'étais là, oui. Voilà.
Et en destination un peu plus, peut-être, vacances, parce que là, c'était une expérience un peu pour toi. T'aurais une autre destination que t'as...
J'ai pas fait trop... Je sais pas ce qu'on appelle vacances. Les Canaries, avec Manon, c'était grave cool. C'était bien chill, et c'est une petite île, donc on peut facilement bouger et voir des trucs différents et des paysages différents et tout ça. Et puis c'est pas trop loin, donc je trouvais que c'était pas trop mal. Puis après, sinon, les destinations que j'ai faites, c'était plus avec à chaque fois des activités ou alors pour le travail. Et donc du coup, j'ai pas fait le côté vacances, tu vois, de la destination.
Et voyager toute seule, t'as déjà fait ? C'est quelque chose qui pourrait être...
Non, par contre, à la base, l'Égypte, j'étais censée faire toute seule. Parce que justement, j'ai très envie de voyager seule.
Ouais.
Et ma sœur s'est incrustée. Et puis après, elle m'a dit, mais j'ai pas de thunes. Je lui ai dit, oh, je te paye les billets, d'accord.
Oh, bien joué.
Wow, grande princesse. Incroyable.
Elle a fini avec non, des, du coup, des pierres notre blague. Précieuses, des trucs.
Je peux être ta sœur.
Ah, oui, si tu veux. Mais c'était notre blague pendant tout le séjour, parce qu'elle faisait que dire, du coup, t'es mon sugar daddy. J'étais là, oui.
Sugar sister.
Soyez votre propre sugar daddy. C'est la morale.
Bah, j'essaie.
T'as un pire souvenir, un truc, un pays que tu, dans lequel tu voudrais pas retourner?
Oula, attends, faut que je réfléchisse. Non, pas forcément.
Non, pas eu de mauvaises expériences.
Franchement, j'ai pas eu de très mauvaises expériences. Non, les rares trucs qui se sont mal passés, c'était pas forcément en lien avec le pays en soi. C'était plus, tu sais, des expériences genre pas de chance, tu vois.
Ouais, ouais, je vois.
Mais ou alors des gens avec qui tu pars qui sont pas forcément cool. Mais ça n'a pas de
Manon,
lien avec le lieu.
Dans Canary, c'était bien, t'as dit.
Manon, c'était.
Et alors normalement, on fait un petit concours d'anecdotes avec tous les invités. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous raconter où on t'écoute, genre quelque chose de ouf qui t'est arrivé dans la vie, soit
sachant que déjà l'Égypte ça a l'air incroyable, mais peut-être un truc précis.
Ok. La première fois, attendez, je donne juste très court ou j'explique?
Ah non non, là on t'écoute. Là généralement les gens ils prennent de 3, 4, 5 minutes. Et d'ailleurs si dans le public il y a quelqu'un qui a une anecdote de ouf après,
oh ouais, racontez-nous.
Il y a une place pour après, donc commence à réfléchir. Mais d'abord tu peux prendre tout le temps que tu veux, on t'écoute, c'est ton moment quoi.
Ok, j'avais jamais été en boîte de nuit de ma vie parce que j'étais pas, je suis un peu
quand
je parle de quand j'étais j'avais à peu près 22-23 ans,
22-23 ans.
Voilà. J'avais jamais été en boîte de nuit de ma vie, et parce que je suis un peu agoraphobe et que ça me stressait, et puis c'est pas trop mon truc quoi. Quitte à faire la fête, autant faire des soirées jeux de société comme une bonne trentenaire. et je suis partie au Vietnam avec mon ex, et on a décidé un jour, on était à Phuket, et pas à Phuket, qu'est-ce que je raconte ? À Hanoï. On était à Hanoï et on avait décidé d'aller juste se promener et puis de boire un petit coup le soir parce qu'on était à Hanoï, on avait envie de profiter, et il pleuvait à des seaux d'eau. Et on va dans la rue de la soif d'Hanoï. Je sais pas si vous avez déjà été à Hanoï, mais il y a une rue où genre t'as
avec des petites
40
chaises.
Bars
des petites
avec plein de bars. Voilà, exactement, celle-ci. Et on commence à boire un shot, enfin un verre, et il me dit « Charlie, est-ce que tu sais ce que c'est un barathon ?» Quand quelqu'un commence avec ce genre de phrase, déjà, vous pouvez
fier. J'ai hâte.
Je dis « Non, je ne sais pas ce que c'est, un barathon ?» Il me fait « Ok, on va faire un barathon. » J'étais là « Ok, mais on a quand même le bus demain à 6h. »
Comme toi, tu dors pas, bam, tu dors dans le bus.
T'inquiète, c'est l'aventure. Et donc, il m'a expliqué le principe d'un barathon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on est censé faire boire au moins un verre dans chacun des bars de la rue.
Qu'ils appellent en Thaïlande le pub crawl.
Le pub crawl.
Le pub crawl.
On a fait en Thaïlande.
Ok.
C'est la tournée des bars,
pas.
En fait.
C'est la tournée des bars. Ok, mais moi, je ne connaissais pas du tout. Je n'avais pas cette culture de la fête. Et donc, on a commencé un premier bar, un deuxième bar, un troisième bar. On buvait des shots à chaque fois. Et à un moment donné, on a croisé des Australiens. Là, ça commence à devenir flou. J'ai des vidéos.
C'est souvent quand on rencontre les Australiens que ça devient flou.
Et je sais juste que, comment dire, cut dans ma tête, genre plus rien. Je me réveille Et là, je me dis, putain, ça tangue. Et je réalise, là, je fais, putain, ça tangue. Ça tangue, là. Donc, je me lève, donc j'ouvre le rideau. J'étais sur un bateau.
Oh.
Dans la baie d'Along.
Ah oui.
Oh.
Donc là, je me tourne vers mon ex.
Et c'était pas prévu ?
Ah mais non, on était à Hanoï.
Mais donc tu n'avais pas prévu le lendemain la baie d'Along.
Attends.
Ah pardon, excuse-moi.
Moi, dans mon histoire, dans ma tête, ça fait juste les Australiens, haha, on fait la fête, on s'amuse. Cut, je me réveille, ça tangue, je suis dans un fucking bateau dans la baie d'Along. Donc là, je regarde mon ex, je fais, bordel le chat, qu'est-ce qui s'est passé ? Il me regarde, il fait, tu te rappelles pas ? Je fais, bah non, je me rappelle pas. Il fait, oh boy. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a enchaîné les bars avec les Australiens. J'étais raide bourrée. Ensuite, ils nous ont dit, venez, il y a une soirée dans une boîte de nuit à Hanoï, etc. Machin.
Ta première.
Ils nous ont emmenés dans une ruelle sombre. Ils s'est dit, à tout moment, on se fait kidnapper. Ça ressemblait pas du tout à l'entrée. Ils nous disaient que c'était la plus grosse boîte de nuit d'Hanoï ou je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, ça ressemblait pas du tout à l'entrée de la plus grosse boîte de nuit d'Hanoï. Apparemment, on est rentré à l'intérieur. Et en fait, si, c'était vraiment la plus grosse boîte de nuit d'Hanoï. C'était immense. On a fait la fête jusqu'à 5h30 du matin. Donc, je tiens à dire que la seule boîte de nuit que j'ai fait de ma vie, je ne m'en rappelle pas. J'ai juste des vidéos de moi au chaval. Aucun souvenir. Et donc, après, apparemment, on a pris des trucs dans des ballons gonflables.
Ah, de l'hélium. Non, du gaz hilarant.
Je sais pas du tout.
À consommer avec modération.
J'ai vu ça aussi en Russie, ils en proposent aux gens.
Mais en Asie, il y en a partout, mais même moi je connais des bars à Paris avec des ballons.
Ah oui, mais c'est vrai que maintenant il y en a partout, mais oui, c'est du gaz hilarant, ouais, je crois que.
Mais du coup, je me rappelle pas.
Ah bah.
Et après, on est rentré. Parce qu'en fait, à 5h30, Charles s'est rappelé qu'on était censé accessoirement prendre le bus à 6h. Donc, du coup, on a tapé le sprint d'Elodie pour rentrer à l'hôtel. Il a dû faire toutes les valises parce que moi j'étais littéralement écrasée au sol. Et donc, après, il m'a foutu dans le bus. On a fait, je sais plus, je crois que c'est un truc genre 6 heures ou 10 heures de route pour aller jusqu'à...
Non, c'est un peu moins.
La baie d'Along. Bon,
c'est au moins 5 heures, quoi.
Ouais, c'est au moins 5 heures.
Et après, il m'a mis dans le bateau et j'ai fait la sieste jusqu'au soir.
Ah ouais, donc t'as pas du tout kiffé la baie d'Along, quoi.
Bah, en fait, si, après, est-ce qu'on est resté quelques jours, mais le truc, c'est que j'ai aucun souvenir de la seule boîte de nuit que j'ai fait de ma vie.
C'est beau.
Je trouvais ça drôle. Voilà, fin de l'anecdote, merci.
Bah, elle était très bien. Hein.
Elle était pas mal, elle était pas mal. J'avais un truc, moi, sur. Ça m'a rappelé plein de trucs.
Moi, la baie d'Along, ce qui est rigolo, c'est que sur le bateau de la baie d'Along, donc tu peux. Pareil, c'est un peu au pif, quoi, quand tu voyages. Moi, je voyage pas mal toute seule. Et quand tu voyages tout seul et que tu bookes un truc, ça peut être un peu au pif. Et c'était vraiment l'inverse. C'était pas les boîtes à Hanoï, c'était la boîte sur le bateau.
Oui, c'était une partie cruise.
Oui, mais j'ai pas fait exprès, moi, d'aller là.
Là, j'avais tapé partie cruise.
Alors que, voilà, on commence à rentrer un peu dans. Vous voyez le personnage. J'aime bien la fête, mais je suis pas non plus, tu vois. Et ils buvaient, tu sais, des bières à l'américaine. Genre, ils font un trou dedans, ils font. On la boit tout en entier. Moi, je dis, je fais pas ça, frère.
Et après,
il est 15h. Attends, 18.
Et après, vous avez.
Bah, tout le monde était bourré, on a dormi à la baie d'Along quelque part.
Ah, vous avez dormi dans l'hôtel.
Continué à devant.
Dans le bateau.
C'était pas dans le bateau, c'était genre, il nous amenait à une destination, c'était magnifique.
Ah,
Et il nous amenait à une destination. J'ai l'impression que c'est mon tourista.
C'est une
tourista avec Marie de Brouwer.
Ouais, non, mais si.
Et donc, j'ai dormi sur la baie d'Along quelques jours.
Non, parce que j'ai fait un peu la
même
chose.
Il y avait beaucoup d'alcool.
Mais du coup, dans le public, vous avez des anecdotes de dingue ou pas ?
Alors, c'est obligé. Il y a des voyageurs ou des voyageuses. J'ai rien compris. Il va falloir que tu viennes ici. T'as une anecdote de
une
deux
anecdote
minutes. Ah non, il stresse. Ah, bah viens, viens. On trouve toujours pire que soi. Oui, ça vaut peut-être pas le coup que tu viennes nous le dire ici, cette petite anecdote. Viens.
Mais tu peux venir nous la raconter.
Dépêche-toi.
Quelqu'un d'autre ? Peut-être pour après ?
On a le temps pour une anecdote. On a le temps pour une. Comment tu t'appelles ? Normalement, il y a un micro pour toi. À ta gauche, mais c'est bon, sinon
je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Écoute, tu.
Moi, bonjour. C'est Mathieu.
Salut Mathieu.
Bonjour.
C'est la première fois que je fais ça.
Je sors de ta zone de confort là. Raconte-nous.
Un petit challenge.
Raconte-nous tes petites aventures.
En fait, je travaillais en tant que stagiaire dans une entreprise au moment où je voulais être salarié et puis après, bon. Le patron de mon stage est venu me voir. Il a dit genre oui, on aimerait se lancer aux États-Unis et personne ne veut y aller, personne ne veut faire euh, ne veut faire le voyage, alors
un peu suspect.
Ça te dérangerait d'aller à New York, tout frais
direct.
Payé, etc. L'avion, l'hôtel, tout frais payé, etc.
On paye le resto aussi.
Alors j'ai dit, écoutez, je dois réfléchir parce que. Mais bon, évidemment, j'ai dit oui. Non, mais où c'est que je signe, etc. Bon, bref. Et donc voilà, finalement, j'ai fait le voyage et en fait, il se trouvait que j'avais un ami qui était à Montréal à ce moment-là, donc c'est pas très loin. Et donc je lui dis, bah écoute, je peux essayer, pourquoi pas, d'arnaquer le système en essayant de nous prendre la chambre où je suis censé être tout seul pour nous deux, sans qu'il le sache.
Super hacker, un gros hacker, hein, d'arriver à rajouter une personne dans un hôtel.
Je suis un très mauvais salarié, surtout. Non,
ouais, c'est pas mal.
Et donc après, finalement, genre, j'arrive vers mon patron, je dis, c'est combien la nuit? Enfin, maximum la nuit, c'est combien? Et donc le patron, il dit, oui, alors attention pour le prix, attention, hein, je vais te donner un prix, mais il faut faire attention. Hein, genre, bon, ok, ça va être 30 euros, 40 euros la nuit. Genre, 150 euros maximum.
Pas mal.
J'ai dit, bon, bah, ça va. Donc finalement, on a pris un hostel dans le Upper East Side à New York. Et donc finalement, j'ai dit, genre, bah, écoutez, oui, c'est une chambre pour juste pour moi, etc. Et en fait, finalement, sur Hostel World, j'ai mis genre pour deux personnes, etc. Il y avait deux lits pour nous. Et voilà.
Trop bien.
Très bien. Et finalement, on avait réussi ensuite, pardon, je tremble, à aller jusqu'à... Enfin, ensuite, on s'est déplacé à San Francisco. Donc, on a fait le voyage, etc. Et pour le retour, pour prendre l'avion,
ouais,
on avait pris la compagnie low-cost Norwegian Airlines.
Elle n'est pas chère.
Elle n'est pas chère et ça se comprend maintenant. Pourquoi ? Parce qu'après, finalement, au moment où on allait prendre l'avion, c'est-à-dire genre 5 minutes avant, vous voyez les petits trucs où on met les escaliers dans l'avion ou ensuite pour faire rentrer les gens, etc.
Ouais.
Bon, alors je pense que le mec devait être bourré ou je sais pas quoi parce qu'il est allé directement, il a défoncé le moteur. Il est allé direct,
what,
et genre le moteur, direct.
Oh.
Donc.
Attendez, on parle d'un meurtre là ? On parle de quelqu'un qui est mort ?
Non. C'est le truc avec les escaliers, il a foncé dans l'avion.
Ah d'accord, ok, c'est la machine qui a tapé le moteur.
Exactement.
Wow, du coup vous avez pris du retard. Oh, non, je sais pas, je croyais qu'il était.
Bah, on a pris deux jours de retard en fait.
Ah, du coup vous avez deux jours en plus ?
Bah, deux jours, oui, bah, c'est l'autre avion était deux jours après. Mais bon, ça a été un peu compliqué avec la douane, etc. Parce qu'on disait, oui, à tel jour, je pars, et en fait, non, etc. Donc, du coup, ça a été grande complication, grand truc.
Grande galère.
Voilà, donc, plus jamais la Norwegian, voilà.
Mais tu regrettes d'avoir dit oui à ton boss ou pas ?
Ah bah non, pas du tout.
Bon, bah nickel.
Pas du tout. Sauf peut-être, genre, la prochaine fois, mettez un peu plus le budget sur les trucs airlines, machin, etc.
En tout cas, on n'avait jamais eu d'anecdote d'avion cassé.
Ouais.
Non.
C'est pas rassurant.
Mais comme je dis, on trouve toujours pire que soi. Donc je suis sûr et certain qu'il y a une anecdote encore mieux, encore plus... Voilà, mais bon, au moins...
C'est grâce à ça, on pourra faire d'autres épisodes de Tourista. On a trouvé un super concept. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton anecdote et pour bravo pour son courage d'être venu affronter... Notre canapé.
Je suis Élise Le C. C'est Christophe Ondelat.
Mais ça me fait paniquer, moi, les trucs d'avion. Enfin, Manon peut témoigner, peut-être.
Ah oui, t'es pas bien en avion ?
Ah non, mais moi, c'est pas que je suis pas bien, c'est que j'ai qu'une seule phobie, c'est l'avion.
Ah oui ?
Mais je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne sais même pas. Enfin, c'est-à-dire que si vous me voyez dans un avion, je suis shootée aux anxiolytiques. Sinon,
et ça
rien. Ah oui, non, mais il me faut une dose de poney, parce que si, je vous jure, la dernière fois, j'avais tenté le retour des Canaries sans rien. J'ai tapé la pire crise d'angoisse de ma vie, j'étais en train de hurler « On va tous mourir !» et tout le monde qui me regardait. Et en fait, j'ai fait paniquer les gens, parce que j'étais en train de dire « On va crever !» Et ils me regardaient, ils ont commencé à paniquer, parce que forcément, il y a une meuf complètement folle qui est en train de hurler « On va crever, on va se cracher !» Et donc, j'ai fait paniquer tout l'avion.
Mais du coup, est-ce que ça t'empêche parfois de voyager tu prévois ?
Non, mais en général, je prévois. J'ai vraiment littéralement une dose de cheval d'anxiolytique, sinon je ne prends pas l'avion. Et ce qui s'est passé du coup pour l'Égypte, c'est que quand on est arrivé, on avait un vol donc, qui nous amenait au Caire, et après on avait des vols internes, un vol qui était censé faire le Caire à Soin, pour qu'on arrive directement à Soin. Et sauf que sur ce vol-là, qui était un vol interne, déjà l'avion ne m'inspirait vraiment pas confiance, et mon anxiolytique était en train de redescendre. Parce que ça faisait déjà un petit moment qu'on était en train de prendre l'avion. Au moment de décoller, le pilote nous arrête en disant « Excusez-moi, messieurs, dames, on a un problème technique avec l'avion. Donc, on va devoir retourner au truc d'embarquement, quoi, et changer d'avion. » Donc là, moi, je dis à ma sœur, enfin, mon stress qui commence à monter, etc. Et elle me dit, non, mais t'inquiète pas, au moins, on change d'avion. Donc ça veut dire que là, s'il y avait un problème technique, on le prend pas.
Ça,
donc,
c'est bien.
Ça va, ça, ouais, ça va juste nous faire arriver super tard, mais en soi, c'est bon. Et donc, on arrive au truc d'embarquement, tout le monde commence à se lever, et là, le pilote fait, non, attendez, vous levez pas tout de suite, restez assis. Donc on reste assis, il y a une heure qui passe, un truc comme ça, et là, le pilote, il fait, c'est bon, messieurs, dames, on va pouvoir redémarrer.
Wow, non.
Il avait sa clé
à molette. Ils n'ont pas fait changer d'avion. Et là, moi, le stress qui commence à genre monter, genre, mais attends, mais comment ça, on ne change pas d'avion? Mais moi, je ne veux pas être dans cet avion-là, mais ça ne va pas la tête. Il a dit qu'il y avait un problème technique. Enfin, il y a un problème technique. Si c'était... Ça veut dire qu'il y a au moins quelqu'un qui est mort, en fait, parce que sinon, il aurait dit juste une petite panne, un truc comme ça. Non, un problème technique. Et donc, panique totale, je commence à hurler pour dire que je veux sortir de l'avion et tout. Mais vraiment, moi, je suis hystérique en avion. Ils ont dû m'asseoir et il y avait les deux hôtesses de l'air qui me tenaient assises comme ça, etc. Jusqu'au décollage pendant que j'étais en train d'hurler.
Ah, waouh, mais c'est le consentement, pas ouf, du coup, dans cette airline.
Mais elle est folle, cette anecdote. Mais je veux pas voyager avec toi.
Non.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Oh là là.
On part tous, mais sans elle.
Et ça va, le train? T'as pas la phobie du train?
Non, non. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des gens, pour essayer de me rassurer, qui m'ont dit, non, mais l'avion, c'est vraiment le moyen de transport le plus sûr du monde. T'as beaucoup plus de chances d'avoir des accidents de voiture ou de train.
Bien sûr.
Non seulement, j'ai pas plus peur de l'avion, mais maintenant, j'ai peur de la voiture et du train.
Ah yes, ça, c'est con, ça. Putain.
La trottinette électrique, peut-être. Ça passe.
Non, mais moi j'ai déjà pris l'avion avec quelqu'un qui avait la phobie de l'avion et c'est trop bizarre quoi, parce que en fait ça va et à un moment c'est le décollage et la personne elle se met à stresser, à paniquer et
c'est phobie, ouais.
Et t'es là, mais tu comprends pas quoi. Et tu sais pas quoi faire.
C'est pas rationnel du tout.
Ouais, non, c'est trop bizarre.
Oui, mais non, attendez, l'avion c'est un peu rationnel parce que c'est quand même un truc qui est dans l'air où on a entendu des histoires de crash, etc. Typiquement, moi, c'est les chats qui ont des phobies pour les chatons, par exemple. Ça, c'est un peu plus étonnant.
Ah ouais.
En mode qu'ils font une crise de panique en voyant un chat. L'avion, moi, je comprends. Hein.
D'accord.
Ouais, je pas du
c'est
tout.
Pas normal. Ouais, pourquoi... Tu vois, t'es pas censé être aussi haut.
Ouais, mais pourquoi c'est juste à certains moments et tout, genre.
Parce qu'en fait, moi, je.
Pourquoi tu rentres dedans si tu sais que tu vas, enfin, je sais pas, c'est
parce
trop bizarre.
Parce que justement, au début, je commençais à avoir un peu peur et pour essayer de me rassurer, j'ai lu des trucs de statistiques sur les avions. Ne faites jamais ça, jamais. Et j'ai découvert que la majorité des accidents arrivaient au moment du décollage.
Ah.
Ce qui fait que maintenant, je fais une crise de panique à chaque fois qu'il y a un décollage, parce que je me dis là, on va se crasher. En fait, j'ai les images de l'avion qui fait genre pout 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 pout.
De toute façon, c'est pas rationnel, quoi. Quoi qu'il.
Tu sais qu'il y a eu des accidents sur
Marie,
des pieds sur des canapés qui chutaient et tu te pétais le coccyx.
Voilà,
terminé. Non, ça n'a pas marché.
C'était une vanne visuelle.
Est-ce que. Alors, tu as fait déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu as déjà beaucoup coché ta bucket list. Enfin, en tout cas, tu viens de cocher un truc énorme. Est-ce qu'il y a encore des rêves que tu n'as pas encore coché, que tu aimerais réaliser
En voyage,
ouais, quelque chose d'aventure, voyage.
Sinon, j'étais partie pour te raconter comment est-ce que j'ai envie de me raser les sourcils après la mort de mon chat.
T'as perdu un chat?
Non,
d'accord.
Je touche du bois.
T'as pas de chat, Maxime?
Je n'ai pas de chat.
Tous les chats touchent du bois.
Mais du coup, oui, il y a plein de destinations que j'aimerais encore faire. J'aimerais bien faire l'Amérique du Sud,
plutôt
l'Argentine.
Où l'Argentine.
Et pourquoi pas l'Antarctique? Et j'aimerais bien faire le Tibet, le Népal, la Tanzanie, la Chine.
Le globe terrestre.
En vrai, tout. Oui. Mais
un petit tour du monde, quoi. Un petit tour du monde.
Classique.
Très bien. En train, du coup.
Et la Laponie. J'ai trop envie de partir en Laponie.
Pourquoi?
Ça a l'air trop stylé.
En hiver. Pourquoi
je connais pas trop.
Pourquoi pas, Maxime?
Non, mais je sais pas, la Laponie. Moi, personne m'a dit la Laponie, c'est trop bien encore. Donc, je sais pas.
Moi, j'ai vu des stories d'influenceurs.
Ah, voilà.
Ils m'ont influencé. Ça a l'air trop beau.
C'est comme ça que ça marche. Hein. Merci beaucoup, on a beaucoup voyagé. Merci à Cass qui a organisé, notre hébergeur qui a organisé la soirée. Merci au Grand Control de nous avoir accueillis. Merci au public d'avoir fait le déplacement. Merci à Marie pour ce quiz incroyable.
Merci à
Charlie d'Angers d'être venu de Nantes pour nous raconter ses aventures de voyage. Merci aux touristos, aux touristas de vous abonner au compte Instagram, aux petites notes que vous, aux petits commentaires 5 étoiles que vous nous mettez, ça nous fait grossir tout ça. J'ai pas écrit la suite, mais je crois que c'est bon.
Mais merci à ceux qui sont là.
Et pardon.
Merci à Manon Bril de m'avoir supporté dans ma crise d'angoisse dans l'avion.
Merci à Manon Bril, merci à tous les copains, les copines qui sont venus, et à dans 2 semaines pour 2 nouvelles aventures. Et normalement, il y a un petit avion qui fait. Marie, t'as le petit avion, fais le petit avion. Ouais. Non.
Crash. Merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.